plus belles rencontres sont toujours inattendues. Elles peuvent parfois changer le cours de votre vie.
Eh bien, le 9 novembre, nous avons fait une très jolie matinale avec Jean-François Dore. Et pendant cette matinale, Jean-François nous a parlé d'architecture verte, de drôles de maisons, de drôles de crèches. Alors, il nous a donné envie de partir à sa découverte. Et là, vous voyez, je sors de la voiture. Je vais faire même le petit bruit de la voiture qui la porte. Et je suis à Saint-Privat de Champclos. Et on va partir à la découverte. Je le vois là, il est sur le parking, Jean-François. À la découverte d'un office de tourisme un peu à part. Bonjour Jean-François.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver.
Mais oui, moi aussi, ravi et bienvenue.
Voilà. Alors vous allez nous montrer ce que c'est que l'architecture verte in situ, puis je vais vous laisser beaucoup le micro parce que c'est vous qui allez nous expliquer tout ça. Voilà.
Alors on est à Saint-Privat de Champclos, qui est un village particulier qui a une forte activité touristique, 300 habitants l'hiver et plus de 4000 habitants l'été, parce qu'on est au bord des gorges de la Cèze, à côté de Barjac, dans le piémont Cévenol, et c'est un endroit qui est très prisé en France et à l'étranger. Le parking de la mairie sur lequel on est n'est plus le parking de la mairie parce qu'il a été complètement transformé. On a sorti tout le goudron. Il n'y a plus de goudron et on a recomposé un champ clos qui est cet espace si particulier qu'on trouve ici. Le champ clos, c'est une zone de culture de céréales qui, sur les bords, a les mûriers, l'arbre d'or, hein, l'arbre.
C'est une zone où il y avait beaucoup de
céréciculture.
Voilà, c'est ça.
Et le mûrier, c'est l'arbre qui sert à la céréciculture. Et dans ces champs clos, il y avait au bord des capitelles de bergers et des murs de pierres sèches. Et quand j'ai eu la commande de la mairie pour un office de tourisme, j'ai proposé de réaliser ici, au pied de la mairie, une évocation du paysage particulier que les promeneurs, les randonneurs, les touristes vont maintenant découvrir. Et donc le bâtiment qui réinterprète ces fameuses capitelles de bergers, mais dans une forme très contemporaine.
C'est les capitelles alors.
Voilà. Et on en voit quelques-unes, notamment en venant ici. Elles sont intégrées au mur. Et en fait, c'est un abri pour les bergers. Et il est réalisé avec des pierres qui viennent du champ. Et donc c'est vraiment de l'architecture vernaculaire puisque on nettoie le champ entre guillemets des pierres pour le rendre cultivable, et ces pierres qu'on a entre les mains avec une simple taille sont montées en édifices, en murets, en maisons parfois.
On est juste à la limite du Gard et de l'Ardèche. Hein.
On est juste à la limite du Gard et de l'Ardèche. La frontière est même, j'allais dire, presque floue puisque un coup on est dans le Gard, un coup on est dans l'Ardèche. Ensuite on revient dans le Gard.
Ah, elles sont magnifiques ces pierres. Hein. Bon, il y a le panneau, pas avantageux ce panneau. Hein, je vais faire de
Alors,
l'esprit, mais ce panneau est peu avantageux sur cette beauté.
C'est vrai que l'accessibilité universelle et donc la place réservée aux personnes à mobilité réduite, c'est un des grands principes de cette construction, puisque le deuxième volet de la commande de la communauté de communes et de la mairie, c'était de montrer, de flécher les bons principes aux hébergeurs. Donc on va parler d'écologie bien sûr, mais un de ces principes, c'est l'accessibilité universelle, au sens où le bâtiment est accessible à tout type de handicap, à tout public, côté public justement, mais côté aussi personnel et côté professionnel. L'hôtesse pourrait être une personne handicapée également.
Le lieu est magnifique. Alors en plus, on est servi avec un temps les hauts durent le vent. Hein. Il y a des gros nuages gris, mais ça n'empêche pas, ça n'enlève rien la beauté du paysage.
Il y a beaucoup de couleurs, très belles couleurs, avec le soleil qui se lève parfois dans des éclaircies.
D'ailleurs, les pierres de ces capitelles, avec ce temps, elles sont presque jaunes.
Oui, elles sont plutôt bleutées et elles vont vers le jaune.
D'accord.
Et il y a une patine qui se fait au niveau de ces pierres. Et évidemment, ces pierres proviennent juste du champ qui est de l'autre côté de la route.
D'accord.
Et on les a simplement prélevées dans le champ, taillées et empilées les unes sur les autres, puisque le principe de la pierre sèche, c'est qu'il n'y a pas de joint, il n'y a pas de mortier.
Avec une saignée là déjà.
Et alors voilà,
c'est
le bâtiment est végétalisé, ouais. Comme se végétalisaient naturellement les capitelles, sauf que là, bien sûr, ça a été voulu depuis la conception. Et on verra, c'est un système de jardin en triangle qui compose la peau, l'enveloppe de ce bâtiment.
Attends, c'est peut-être une glycine là, qui descend, mais c'est pas sûr.
Alors on a volontairement choisi des plantes typiques du paysage et du patrimoine végétal local. Donc on va trouver notamment ici les sédums, très bien, Erigerum carlinskianus. Des sédums, des géraniums.
C'est très costaud le sédum, non ?
Oui, et il y a plus de 400 espèces et variétés de sédums. Là, il y en a quelques-uns. Il y a sédum spurium, sédum pachyclados. On va en découvrir tout un tas en faisant le tour du bâtiment, puisque c'est en fait une planche botanique en 3D, et même en 4D, puisque encore une fois, le temps fait son œuvre et les plantes évoluent. Et le randonneur est invité, en faisant le tour de l'office de tourisme, à découvrir déjà la flore du coin et qu'il va découvrir.
Que vous avez posé quand on s'était rencontré à la matinale, vous avez une formation de botaniste, parce qu'aujourd'hui, vous y connaissez comme un botaniste.
Alors, j'ai tout appris sur le tas, mais c'est vrai que chez Greenwall, on a un catalogue de plantes de 350 espèces et variétés de vivaces différentes, plutôt dans les méditerranéennes, mais pas que. Bon, ici, on va retrouver la valériane des prés, on a parlé de l'érigeron. Voilà. Elle existe en trois couleurs, blanc, rose et rouge. Voilà. Encore des sédums, encore une autre variété de sédums. Ici, c'est l'homme spurium à nouveau.
Pourquoi il y a des piles de Vénus que j'adore, mais là, il n'y en a pas.
Ici, c'est amusant. Il y a la capillaire de Montpellier, qui est une petite fougère. Alors, c'est pas parce qu'elle vient de Montpellier, c'est parce qu'elle a été répertoriée à Montpellier, comme beaucoup de ces plantes.
Comme la filante de Montpellier, c'est un peu pareil.
Beaucoup de plantes qui portent le second nom de Montpellier, en fait, c'est qu'elles ont été identifiées. Alors, ici.
De marcher ou de frotter quelque chose qui sent.
Le thym, on vient de marcher sur du thym, voilà, tout simplement. Et parce que ce thym est tombé du bâtiment, il y en a beaucoup sur le bâtiment. Il y a des fétuques ici. Ici, la fameuse Campanula muralis dont je parlais. Là, elle s'est installée spontanément ici, mais elle vient du toit.
Vous aviez mis beaucoup d'espèces à la base ?
On a mis 80 espèces et variétés et à peu près un millier de sujets, un millier de plantes. Et ça s'est modifié.
C'est pas très grand. Le bâtiment...
60 mètres carrés. Et c'est un bâtiment prototype, c'est-à-dire que le principe qu'on va découvrir à l'intérieur, d'ossature bambou, permet d'aller jusqu'à 20 mètres de diamètre, et donc 10 mètres de haut. Et là, c'est le plus petit modèle qui fait 8,50 mètres de diamètre, et donc 4,25 mètres de haut. Mais le fait que ce soit un bâtiment public, un établissement recevant du public, qui est normé et certifié par un contrôleur technique... a permis de valider toute la technologie pour faire de beaucoup plus gros bâtiments.
On peut faire la même chose en plus gros.
On peut aller jusqu'à 20 mètres.
Et alors j'ai vu des cosmos aussi, parce que moi j'adore les cosmos.
Oui, ça a été planté parce qu'il y a un artiste qui fait des sculptures avec des cosmos. Et donc du coup, ils ont eu l'idée de remettre sur le toit du bâtiment pour rappeler les sculptures qui sont en vitrine à l'intérieur. Alors, il y a un développement spontané de mousse qui s'est créé, et qui, ça, c'est ce que j'appelle être le très bon signe, c'est quand la végétalisation prend bien, ça se couvre entièrement de mousse.
Et alors, le bois, la structure, il y a des moments où on voit qu'elle est presque un peu cassée, hein, enfin là, ça n'a aucune incidence sur le bâtiment?
Oui, parce que en fait, c'est pas du bois de structure, c'est juste le bois qui a servi à retenir le substrat les premières années. Donc il peut même être biodégradable, il est biodégradable, il peut même complètement disparaître.
C'est pas entretenir quoi, voilà, c'est posé,
voilà.
Après on n'a plus d'entretien, d'accord.
Exactement. Donc on voit c'est fleuri encore au mois de novembre, c'est vrai qu'on a un climat particulier.
C'est le piracanta, je crois ça.
C'est ça.
Que j'aime pas tellement, mais qui est tellement beau en automne avec ces grosses grappes de fleurs oranges, de graines oranges. Ouais.
Alors particulièrement, j'allais dire revêches, rustiques, on retrouve encore des campanules là qui ont colonisé.
Moi, elles ont toutes été mangées chez moi par les tortues.
Ah.
J'ai des tortues dans le jardin qui ont bouffé toutes les campanules. Elles aiment ça.
Il faut les mettre dans les murs, comme ça les tortues n'iront pas.
Eh bien exactement. Moi, j'ai des tortues grimpantes. Non, je rigole.
Donc voilà, et on voit il y a de la lavande aussi, bien sûr, parce et on le voit. Alors ici, là, il y a un champ de lavande, voilà. C'est-à-dire que dans le paysage de Saint-Privat-de-Chanclos, la lavande est une plante qui est très cultivée.
J'étais étonnée parce qu'en arrivant, il y a un grand champ de lavande. Et je me suis dit, tiens, quand même, on est bien au nord pour la lavande. Et ben non. Alors.
Et il y a un débouché parce que dans le Gard, il y a un débouché sur les plantes cosmétiques. D'accord. Avec un organisme qui s'appelle le CIVAM et qui réunit tous les agriculteurs et toutes ces plantes de lavande vont être transformées pour faire des produits cosmétiques, d'accord, notamment. Et donc, bien sûr, sur le bâtiment, on va retrouver cette plante emblématique de la commune qui est la lavande, mais pas que, parce que la liste est très longue. Effectivement, il y a des lianes, voilà.
Ces petites mousses, là.
Alors ça, c'est spontané, hein, elles sont venues toutes seules.
C'est vraiment beau. Puis Racanta, ça doit bien tenir tout ça, hein, par contre.
Voilà. C'est un des principes de ce dôme, et dans les générations futures de ce bâtiment qui est appelé à être reproduit, ça sera accentué. C'est-à-dire que la peau qui est végétalisée avec toutes ces plantes qui ont leurs racines, qui est dans le matelas de sphaigne, c'est le substrat qu'on utilise, elle contribue quand même à finir de solidifier le toit du bâtiment. Et c'est une architecture qui, en vieillissant, on peut le dire, même s'il n'y a pas d'usure, elle va continuer à se solidifier. C'est une structure vivante qui va s'intensifier avec le temps.
Le bâtiment de Saint-Privat-de-Chanclos, c'est le plus ancien qui existe ?
Sur ce prototype, c'est le premier, c'est le 001. Et même, j'ai envie de dire, c'est le 00 tout court, parce qu'on va voir à l'intérieur les nœuds en acier qui tiennent la structure bidimensionnelle en bambou. Ce sont vraiment les premiers de série. Et maintenant, on a un modèle de nœuds en acier qui est beaucoup plus design et qui a été optimisé sur ce bâtiment.
Là, on en a fait le tour de ce côté-là.
Voilà.
Et là, on arrive donc sur la route, hein, qui est tout calme. Hein.
Et l'été, c'est très passant.
Ah, voilà.
C'est vraiment.
Vous nous disiez qu'on passait de 400 à 7000 ou 3000, je ne sais plus
combien. On passe de 300 à plus de 4000. Donc, il y a assez plus.
Des campings, des choses comme ça?
C'est ça. Ouais. C'est qu'il y a beaucoup de campings dans les gorges de la
tourisme
Sèze.
Tourisme vert et tout. Ouais.
Tourisme vert. Et donc.
Il y a les gorges de la Serre, Barjac, qui est très. Et puis, on n'est pas si loin du début de les gorges de l'Ardèche. C'est un passage pour aller.
C'est juste à côté. On est entre les gorges de la Sèze et les gorges de l'Ardèche. Et il y a beaucoup de gîtes, c'est diffus comme hébergement touristique, et c'est la vocation de ce bâtiment, c'est que comme il y a énormément de gîtes sur la commune, les touristes étaient perdus, et ils se retrouvaient sur la place de la mairie, et ils ne savaient pas trouver leur gîte.
Donc la mairie a mis quelqu'un permanent l'été ?
Et alors on a fait mieux, c'est-à-dire qu'il y a en fait une bande d'information télématique. Donc il y a quelqu'un en permanence l'été qui est là toute la journée. Mais si vous arrivez pour prendre possession de votre logement, je sais pas moi, le samedi soir à minuit, la bande info télématique permet de pianoter, de taper le nom de son gîte et on a les coordonnées GPS, la carte, les indications.
Autant de gardité dans un lieu si coupé du temps, c'est, je trouve ça formidable.
C'est ce que je voulais souligner, c'est-à-dire que ça a l'apparence d'une capitale, donc ça a l'apparence rustique d'une capitale, alors que c'est un bâtiment qui est bourré de technologies, qui a été développé en partenariat avec l'université de Gand en Belgique. Donc on a performé le bambou d'Anduze en traction, compression, torsion. Et c'est vrai qu'on n'a pas idée, on va faire le tour, mais quand on rentre, on n'a pas idée de ce qu'on va découvrir à l'intérieur. Donc il y a quelques lianes, effectivement, il y a là une glycine, il y a une vie de vierge. On va retrouver encore une autre variété de sédum, des euphorbes, bien sûr.
Zinnia, des genres zinnia, je ne sais pas, ça ressemble.
Il y a des fétuques.
Ouais. On retrouve. Des graminées aussi. Ouais.
Voilà, il y a tout le mélange, toute la flore.
Sédum, je trouve beau.
Il est très beau celui-là. Il a une forme spiralée.
Ouais, magnifique.
Et ça, c'est encore une autre variété de sédum. C'est le même que Spurium, mais dans une couleur rouge. Et puis, il y a des fraisiers. Alors, ils sont là, voilà. Oui, là, il y a des fraisiers.
Et là, on dirait presque que le substrat, enfin, je ne sais pas comment vous appelez ça, commence à descendre, reprend ses marques.
Alors, le substrat, effectivement, c'est une plante. Il n'y a pas de terre dans ses toits végétaux et dans ses murs végétaux pour la bonne et simple raison qu'on est hors sol et que donc, on n'a pas les micro-organismes, on n'a pas les vers de terre qui vont régénérer le substrat. Donc, on ne pouvait pas utiliser de la terre. Et donc, c'est une découverte du CIRAD, mon partenaire scientifique à Montpellier. C'est une plante, c'est une mousse. Tiens, je vais en attraper un petit peu. C'est un petit peu comme une mousse ou une fougère qui absorbe jusqu'à 15 fois son poids en eau. Donc c'est une véritable éponge. D'ailleurs, si je la presse, il va sortir de l'eau. et la réserve d'eau est à l'intérieur des cellules de la plante. Et c'est ce qui fait que ce type de mur et de toit végétaux consomme très peu d'eau, puisque dans le cas le plus défavorable, c'est à Marseille sur le Vieux-Port, le grand mur végétal qui a été installé 10 ans à Marseille sur le Vieux-Port. C'est lui qui consommait le plus parce qu'il est face à la mer, il a tous les vents et en plein soleil. Il est à 200 litres d'eau par mètre carré et par an. Et un jardin classique, lui, c'est 1000 litres d'eau par mètre carré par an. Donc dans le cas le plus défavorable, on a une consommation d'eau qui est 5 fois moindre qu'un jardin classique, sachant que quand on est dans les murs végétaux d'intérieur, alors là, ça chute, c'est complètement, c'est 50 litres d'eau par mètre carré.
Et aucun amendement, jamais, ou amendement.
Alors, quand on veut nourrir les plantes, on met un cocktail d'algues.
D'accord.
Alors, l'arrosage, ici, il est particulier, c'est parce que l'eau, elle est recyclée. Quand on a construit le bâtiment, on a construit une tranchée d'adduction, ici, vers le bâtiment de la mairie, justement pour amener l'eau. Et en faisant ces travaux, au niveau de ce petit cube-là, en pierre de taille, on a découvert, par hasard, une citerne enterrée dessous en pierre que tout le monde avait oubliée. Même le maire, même les anciens du village avaient complètement oublié la présence de cette citerne, qui en fait récupère l'eau qui percole au travers de la terre et récupère l'eau de la toiture de la mairie. Et donc, ayant redécouvert cette citerne oubliée, on a décidé de la remettre en service. Donc on a reconnecté les gouttières de la toiture vers la citerne, qui est très grande, hein, il y a 8 mètres de profondeur. Et l'eau à l'intérieur, c'est comme un lagon des mers du Sud, elle est bleu turquoise, magnifique.
Vous savez comment ça a passé l'été ?
Alors cet été, ça a bien grillé, parce que justement, là, on le voit, hein, les graminées ont pas mal souffert de la sécheresse, malgré l'irrigation, parce que ici, il y a eu des températures de l'ordre de 40 degrés avec du vent, et là, les plantes sont dans un tel stress hydrique que, d'ailleurs, c'est même... On peut même pas les arroser, parce que si on arrose une plante qui est soumise à un vent chaud, on lui donne une information contraire au climat. Et donc, elles vont ouvrir leur stomate, et elles vont souffrir encore plus de la sécheresse et du vent chaud. Donc là, bon, mais ça fait partie aussi de la philosophie du bâtiment. Il y a quelques plantes qui ont grillé, d'autres ont repris le dessus, et voilà, c'est le jardin en mouvement c'est le jardin en mouvement de Gilles Clément, mais appliqué au bâtiment, aux constructions. Et ça se ressème d'ailleurs, et là on voit bien que les petites campanules, là elles sont en train de repartir, et quand je disais ça se ressème, là on voit toutes les pousses. Il y en a partout, de toutes les graines qui ont été semées et qui sont en train de lever à nouveau. Et donc la végétalisation va se refaire. Et alors le substrat s'est tassé, on arrive à la 10e année de ce bâtiment, donc à la fin de la garantie décennale, et c'est le moment où maintenant il faudrait faire un petit peu d'entretien. Il n'a jamais été entretenu pendant 10 ans. Et là, il faudrait faire un petit peu d'entretien, regarnir, c'est très simple, hein. On regarnit avec de la sphagne fraîche à nouveau pour combler les trous. Et on repartira pour une décennie à nouveau.
Si quelqu'un monte sur le toit, ça il tombe.
Aucun problème. D'ailleurs, nous, on monte sur le toit pour quand on veut faire vraiment de l'entretien. Et alors, il y a un système d'irrigation intégré. On voit passer les tubes là à certains endroits. Et sur le toit, en plus, j'ai rajouté un asperseur qui est plus une attraction finalement, parce que quand il se déclenche, ça fait un bâtiment qui est fait un petit peu comme une baleine, hein, avec le jet d'eau sur le dos. Voilà.
Le jouet pour enfants.
Voilà. Bon, il y a encore des fleurs alors qu'on est au mois de novembre.
Oui.
Et donc là, par terre aussi, c'est pareil. Hein, on retrouve des sauges.
Ça, c'est des sauges ?
Oui. De la vigne vierge, de la lavande à nouveau. Donc il y a un travail un petit peu de paysagisme ici qui a été fait. Pas un petit peu, il y a un vrai travail de paysagisme, puisque on a du mal à se rendre compte que là où nous sommes actuellement, c'était le parking goudronné de la mairie. Et aujourd'hui, on voit un jardin, en fait.
On a récupéré, c'est bien.
Un jardin habité. Mmh. C'est ce qu'il faut faire en ville, justement, parce que là, on est ici dans un cadre rural, mais c'est ce qu'il faut faire en ville pour lutter contre les îlots de chaleur urbains et adapter la ville aux enjeux climatiques et à l'évolution du climat, et notamment rendre les sols perméables. Le parking qui est derrière, il est en stabilisé, c'est ce qu'on appelle un stabilisé à la chaux. Il a 10 ans, bon, ben, on voit qu'il est en parfait état, ça n'a pas été abîmé, la pluie n'a rien raviné. Le bois qui compose tout le bâtiment, c'est du bois local, et tous les matériaux qui composent ce bâtiment proviennent d'un périmètre de moins de 40 km autour. Donc on a du pin douglas, du châtaignier, du bambou d'Anduze, Donc voilà pour les trois essences de bois.
Douglas, c'est ça, c'est très rouge.
C'est ça, hein, c'est ça, voilà.
Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y'avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées, et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années on aura bouffé la feuille. Et tes petits-enfants ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front ils te demanderont: pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongé dans les prés. Y'avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves. Quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupable. À moitié défroqué, 100% misérable. Alors voilà petite l'histoire de l'être humain. C'est pas joli joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires.
Ça, déjà, ça sent bon. Ça sent le bois, ça sent bon.
Alors, pas de traitement. Le bois de l'extérieur, c'est un brevet du CIRAD. Donc, il y a plusieurs brevets ici dans ce bâtiment. Et un des brevets qui a été mis en œuvre ici, c'est le traitement du bois à l'extérieur. Le CIRAD a inventé un procédé de traitement. Huile de lin, huile de colza, à très haute température. Donc, le bois est frit, comme les frites chez McDonald's, j'ai envie de dire. Et 90 et 120 degrés, et ça le rend imputrescible comme le teck, et ça augmente sa résistance mécanique. Et donc là, on voit, on a remplacé au bout de 10 ans 3 lattes, et la terrasse est parfaite. Et à l'intérieur, zéro traitement, et la bonne
zéro
odeur,
traitement par terre, là.
Zéro traitement, c'est huile de lin et cire d'abeille. Et c'est ça qui fait cette odeur.
C'est bon, ouais.
Alors
pas
ça,
pas d'humidité du tout d'ailleurs.
Pas d'humidité, absolument pas. Et cette odeur, justement, quand on est sur, enfin là, c'est un office de tourisme, c'est, allez, 9 touristes sur 10 ont la même réaction que vous en rentrant, et en disant « Ah, mais ça sent bon, c'est accueillant ». Il y a une bonne atmosphère et c'est vraiment, on ressent ce que j'appelle l'habité sain ou ce qu'il est communément appelé habité sain, c'est-à-dire un bâtiment où la maîtrise des ambiances est faite.
Alors à l'intérieur, on a presque l'impression d'être dans une yourte.
Une yourte. Alors voilà, c'est un dôme géodésique qui est constitué de cette première structure primaire en bambou. Ouais. Donc qui sont liaisonnés par ces connecteurs en acier dont je parlais tout à l'heure. Donc là, ce sont les tout premiers, donc qui sont vraiment dans une forme, j'ai envie de dire, assez basique, parce qu'elle répond vraiment à la fonction. Et les connecteurs qu'on a mis au point aujourd'hui sont dans une forme un petit peu plus design, qui rappelle un petit peu le règne végétal. Et on voit cette épissure de corde qui tient les platines au bout des bambous. Maintenant, on a des embouts en acier qui viennent fixent les bambous au connecteur, et on a rajouté ces crochets qui permettent de suspendre des œuvres d'art puisque l'office de tourisme est souvent utilisé en galerie. Et donc ces crochets, et il y en a partout à tous les connecteurs, ça permet d'accrocher une sculpture, un tableau, n'importe quel type d'œuvre.
C'est dans la légèreté du lieu.
Voilà.
Ouais, parce que c'est vraiment Alors à l'intérieur, c'est quoi alors, entre les bambous, c'est quel matériau ? C'est du bois.
Voilà.
Aussi, là ?
Alors, après l'ossature primaire en bambou, on a un voile d'OSB, donc c'est du contreplaqué, tout simplement, qui a été traité anti-feu. C'est ce qui fait cet effet moiré sur le bois. C'est pas du tout de l'humidité, c'est le produit, le traitement anti-feu, en fait. Derrière ce voile OSB, on a 90 mm de fibre de bois. Donc là aussi, c'est un matériau qui m'intéresse. Cette fibre de bois, elle provient de l'entretien de nos forêts. On va entretenir la forêt, chose qu'on ne fait plus parce qu'on n'a pas l'argent pour.
On a vu d'ailleurs ce que ça donnait avec les incendies cet été.
Voilà, exactement. Donc là, on va ressortir de la forêt avec un volume de petits bois qu'on va broyer, en faire des fibres, et ça va constituer un très bon isolant. Et c'est l'isolant de ce bâtiment. Et après ces 90 mm de fibre de bois, on va retrouver un second voile OSB. Et sur ce second voile OSB, il y a une membrane en caoutchouc. Et sur la membrane en caoutchouc, on va retrouver 150 mm de sphaigne qui constitue la partie vivante végétale du bâtiment. Et ensuite, les plantes. Et c'est tout cet ensemble, fibre de bois, voile OSB, membrane en caoutchouc et 150 mm de sphaigne. Donc, c'est tout cette épaisseur de mur, d'enveloppe, parce qu'on peut pas parler de mur ici, c'est une enveloppe, qui vont donner à ce bâtiment les très bonnes performances thermiques qu'il a.
Isole d'ailleurs, parce que là, bon, il fait 17 degrés. Hein, bon,
ben, il fait 17 degrés à l'intérieur,
voilà,
je pense.
Tout à fait bien, on est en t-shirt.
Alors, ce qui est impressionnant, c'est que donc là, on a le recul sur ce bâtiment. On est beaucoup mieux que dans des simulations thermodynamiques qu'on peut faire aujourd'hui, puisque là, on a les 10 ans de relevé, j'ai envie de dire, des températures. Et donc, en février 2014, il faisait à l'extérieur moins 11 degrés avec du vent, et à l'intérieur, il faisait 17. Il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de climatisation. C'est même particulier pour un bâtiment public.
L'été, donc, il fait pas trop, très, très chaud.
Et alors, l'été, on est venu avec l'équipe de télévision de France 3 pour faire cette émission dont on a parlé. Et il faisait 40 degrés avec du vent à l'extérieur. Et à l'intérieur, il faisait 27. Et c'est un bâtiment public. Il n'y a même pas le lot chauffage et climatisation, le traditionnel lot. Il n'y a rien. Alors, on a rajouté, l'hôtesse s'est rajoutée lorsqu'elle travaille ici l'hiver, un petit radiateur d'appoint qu'on voit, qu'on voit même plus. Eh ben, ils l'ont enlevé, voilà, mais ça sert pas. Elle s'était rajoutée pour se chauffer le dos un petit peu, ce radiateur. Ouais. Et, ben, je vois qu'il n'y est plus, donc, voilà. Alors, la consommation totale électrique de ce bâtiment, c'est 50 watts. Parce qu'en fait, il n'y a que l'éclairage. Donc, il y a 7 dalles au plafond, 15 watts. Bon, je compte pas la lampe de bureau. Et on a 5 spots de 5 watts. Donc voilà, on est 25 watts plus 15. C'est tout ce qu'il y a qui prend de l'énergie dans ce bâtiment.
Est-ce que c'est lourd, une structure comme ça ? Bon, le sol, là, le sol, il est un peu surélevé. On est directement sur la terre.
Il y a un radier qui a été fait en béton. Ouais. Et ensuite, le plancher est surélevé, effectivement, il passe au-dessus du sol.
Sanitaire.
C'est ça, comme un petit vide sanitaire. Le bâtiment, dans son ossature, n'est pas lourd puisqu'on l'a transporté dans une camionnette.
D'accord.
Tout le bâtiment tient dans une camionnette. Et d'ailleurs, il est entièrement recyclable et démontable. Et si on décidait de démonter ce bâtiment, ce qui n'est pas du tout à l'ordre du jour parce qu'il plaît beaucoup, eh bien, on pourrait réutiliser tous les composants pour une autre utilisation.
Par rapport aux déchets béton, par exemple, qui sont vraiment très polluants et très difficiles.
Voilà, une toiture en tuile, quand vous cassez la tuile, vous obtenez ce que j'appelle du mauvais gravat. Si vous cassez un mur en béton, ben, vous obtenez du gravat. Tandis qu'ici, on voit, on peut récupérer les bambous, on peut récupérer les connecteurs, on peut récupérer le bois, on peut récupérer les menuiseries. Et tout ce qui n'est pas récupérable est compostable. Comme par exemple le substrat, on peut s'en servir pour aller amender un jardin. Donc en fait...
Tout ce qui est boiserie est impeccable pour quelque chose qui a plus de 10 ans.
Voilà, ça n'a pas bougé, absolument. Et il n'y a pas de traitement chimique, il n'y a aucun vernis.
Si on pourrait en faire un habitat ici.
Voilà, c'est pour ça que c'est un prototype qui est appelé à être reproduit, parce que la variante gîte de tourisme est apparue comme une évidence à tous les visiteurs qui sont venus ici, en disant « mais moi j'en ferais bien ma maison de vacances ». Et on peut aller beaucoup plus loin dans la dimension, voilà, à la demande, là où on le souhaite. Et on peut aller beaucoup plus loin puisque on peut faire, là, c'est un, donc il fait 8 m45, on va arrondir à même 10 m, par exemple. On peut faire un 15 m et on peut faire un 20 m. Et le 20 m de diamètre, il fait 10 m de haut, donc c'est l'équivalent de 3 étages. Et on peut couvrir comme ça 350 mètres carrés sans aucun point porteur, puisque c'est aussi l'intérêt de ce type de structure, c'est qu'il n'y a aucun point porteur à l'intérieur. Et d'ailleurs, ce bloc sanitaire qui sert principalement au personnel, qui vient en inclusion, c'est un terme d'architecture, on s'est amusé.
Un vôtre de bloc sanitaire, celui-là.
C'est pas un nomade, c'est un sanitaire classique, mais on peut s'amuser à regarder ici. On s'est amusé à aller à affleurer l'enveloppe du bâtiment sans la toucher, simplement pour montrer aux visiteurs que ce bloc n'a aucune fonction structurelle. Il vient en inclusion au milieu du bâtiment.
D'ailleurs, ce bois qui est un peu patiné, moiré, on dirait presque un cuir ou un,
oui,
un tissu.
Hein, c'est vrai. Ça rappelle...
Ça donne de la chaleur encore plus au lieu...
Ça fait penser à Rothko ou...
Exactement. Ou, ouais, ouais. Exactement, au peintre, c'est beau. Voilà, c'est vrai que c'est beau.
Et c'est important pour un office de tourisme de montrer ça. Et c'était important pour ce bâtiment de montrer aux hébergeurs toutes les potentialités de l'architecture contemporaine lorsqu'elle est écologique, accessible à tous, on l'a dit. Pas de chauffage, pas de climatisation. Bon, mais quand on est un hébergeur tourisme, c'est un point important. Le confort, il vient naturellement. Et on a poussé cette démarche jusqu'au bout, puisque tout le mobilier qui est présent ici, les étagères, la banque d'accueil, cette table basse par exemple, ou encore cette étagère, c'est fait avec les chutes du plancher. Parce que ça, c'est une philosophie que j'ai dans mes constructions. On ne jette rien. Donc, je récupère tout sur le chantier et j'essaie de trouver une seconde utilité dans le bâtiment. Et là, on s'est dit, ben, il nous fallait du mobilier, il nous fallait laisser des présentoirs à revue, à prospectus. Et donc, j'ai dit, ben voilà, c'est simple, on a une réserve de bois, on va l'utiliser.
Ils peuvent les mettre dehors, donc ça va être sympa.
Tout ça, ça va dehors l'été, absolument. Comme là, on est au mois de novembre, le bâtiment est normalement fermé. Mais l'été, on occupe la terrasse qui est ombragée, qui est une vraie pergola. Et donc, il y a aussi un lieu très agréable à vivre.
Vous avez chiffré, si un particulier vous demandait, voilà, je veux ça un peu plus grand avec des fenêtres, à combien ça pourrait revenir, par exemple?
Absolument. C'est-à-dire que là, on est sur, c'est un prototype. Mmh. Donc, il est évident qu'en le reproduisant, on va abaisser les coûts d'une manière significative. Mais là, c'est un bâtiment public qui a coûté 1 250 € hors taxe le mètre carré. En marché public, je le répète, parce que quand on est un maître d'ouvrage privé, on paie souvent moins cher que lorsqu'on est un maître d'ouvrage public qui a une logistique, une intendance, la gestion des marchés, etc. Parce que le coût que je donne, c'est pas le coût des matériaux, c'est le prix global de l'opération, y compris la démolition du parking, y compris la création du champ clos, l'adduction en eau, la récupération de la citerne, le mobilier, tout le projet. C'est un coût d'opération global.
Parce que bon, ça peut être une solution aussi quand on a un terrain, ben voilà, plutôt que construire quelque chose enfin j'imagine tous les beaux terrains qu'il y a ici, qui sont pas encore, enfin il faut qu'ils soient viabilisés parce qu'il faut quand même amener l'électricité et les sanitaires. Mais c'est une solution qui est vraiment en harmonie, je trouve, avec la nature.
Oui, alors l'adduction au réseau, elle est même pas obligatoire. Là, on l'a fait parce qu'on est sur la place de la mairie, qu'on disposait des réseaux. Et donc, du coup, on est connecté au réseau municipal. Mais on s'est rendu compte que l'adduction en eau n'est pas nécessaire si on a, par exemple, comme ça, retrouvé une vieille citerne
ou
une source, etc. On se rend compte qu'avec les 50 watts qu'on nécessite ce bâtiment, puisqu'il n'a pas de chauffage, on n'aurait pas besoin d'être connecté à l'électricité. Une petite éolienne, quelques panneaux solaires suffiraient à alimenter le bâtiment en énergie. Et si on avait par exemple une station de phytoépuration, on n'aurait pas besoin d'être connecté au réseau des eaux usées, et donc on pourrait vraiment vivre en toute autonomie avec ce bâtiment. Et effectivement, quand on a tous en tête ces campings qui sont habités de ces bungalows cubiques où le vis-à-vis est très contraignant, eh bien la variante avec ce bâtiment, donc je le rappelle, c'est un dôme géodésique entièrement végétalisé. On était derrière tout à l'heure. Quand vous avez ce bâtiment à quelques mètres devant vous, le vis-à-vis n'est pas gênant, parce que c'est comme si vous aviez une colline finalement devant vous.
À contrario, on a parlé de le faire plus grand. Est-ce qu'on peut le faire plus petit pour éviter ces affreux mobilhomes qui polluent nos... C'est quand même pas plus moche qu'un mobilhome. Hein.
Alors ça, c'est l'équivalent en taille d'un mobilhome. Enfin, c'est un peu plus grand puisque là, on est sur un bâtiment de 60 mètres carrés. Et les mobilhomes, par définition, réglementairement, ils sont en dessous de 40. Et on pourrait effectivement faire encore plus petit puisque en fait, il suffit d'avoir, on va dire, 2,50 mètres de hauteur sous plafond pour circuler. Donc,
c'est sûr. On imagine bien qu'en rétrécissant le parapluie, on va forcément
passer un tout petit peu. Voilà. Bon, ici, on est sur 3,50 m de hauteur, mais parce que c'est un bâtiment public, que c'est intéressant d'avoir cette grande hauteur. Ceci dit, celui-ci, je le vois bien dans sa variante logement touristique avec une mezzanine.
On arrive bientôt à la fin de la rencontre, de cette balade que je vous ai proposée et que je vous propose de venir découvrir. À Saint-Privat-Jean-Claude. Déjà, le nom est formidable. Et là, il y a un petit panneau à la sortie donc, qui rappelle que ce bâtiment a eu le premier prix de l'innovation, Trophée Bâtiment Résilient 2022. Donc, même 10 ans après sa création, il n'a rien perdu.
C'est ça, c'est un bâtiment qui vient de passer la décennale et qui, au Salon Batimat à Paris, a reçu le premier prix de l'innovation justement pour ses qualités de résilience, c'est-à-dire une toiture qui absorbe l'eau de pluie. J'ai oublié de dire que cette ossature bambou avec ses connecteurs, elle est intrinsèquement parasismique.
Ah, en plus.
Absolument, puisque on pourrait inverser la descente des charges dans ce bâtiment et ça tiendrait. Et alors, il se trouve qu'en plus, on l'a testé, cette capacité parasismique, parce qu'il y a eu un tremblement de terre à Barjac, magnitude de 4.5. Et évidemment, le bâtiment n'a pas bougé. Et il a également reçu, en 2022, cette année, le prix du trophée des bâtiments circulaires, et notamment avec la mention « recyclabilité ». Parce que c'est un bâtiment qui est, mention éco-conception et démontabilité, c'est un bâtiment qui est entièrement démontable et entièrement recyclable, valorisable.
Et là, il y a une sculpture de César avec la région Occitanie, il est impressionnant celui-là.
Ouais. Alors ça, c'est le trophée pour la biodiversité de la région Occitanie, qui ne concerne pas que ce bâtiment, mais qui concerne l'ensemble des murs végétaux que j'ai réalisés et les autres bâtiments végétalisés, comme la cité scolaire dont on a parlé, par exemple, ou encore la colline habitée qui est dans la région de Castres-Sorèze. Parce que ce sont des bâtiments dont la peau végétale est peuplée de plantes locales sous leur forme sauvage et qui vont se disséminer dans l'environnement. Alors classiquement, quand on fait une construction, mécaniquement, j'ai envie de dire, on détruit une surface de sol pour poser sa maison, son bâtiment. Et là, en fait, on restitue cette surface de sol végétalisée sur les murs et en toiture. Et en plus, le choix des plantes fait qu'on va distribuer dans l'environnement des plantes qui ont parfois disparu et des plantes endémiques.
Ben franchement, Jean-François Dor, merci beaucoup pour cette balade. C'était superbe. Le lieu est superbe. Le temps, malgré qu'il soit pluvieux et gris, je le trouve superbe. Et ce bâtiment est superbe et je vous encourage tous. Voilà, une balade, c'est à peine 2 heures de Montpellier, découvrir une région superbe. Barjac est magnifique, c'est 3 kilomètres après Barjac. Donc, pour découvrir ce magnifique monument, bâtiment, c'est mieux. Merci beaucoup Jean-François.
Avec plaisir, vraiment.
Musique.
plus belles rencontres sont toujours inattendues. Elles peuvent parfois changer le cours de votre vie.